c'est votre prière. Amen. Amen, c'est un mot hébreu. C'est pas français, c'est pas anglais, c'est hébreu. Et ça veut dire je suis entièrement d'accord. Amen. Donc, avec ce que nous sommes en train de voir dans la parole précieuse du Seigneur, nous sommes dans Hébreux chapitre 12 et nous sommes arrivés à la dernière partie. Tout le livre de Hébreux est vraiment difficile à digérer, merveilleusement nutritieux, plein de nécessités pour la vie, mais ce n'est pas un Big Mac, ce n'est pas juste de bonbons, c'est beaucoup plus que cela. Et nous avons appris des choses qui sont dures et faciles à accepter à la fois, qui sont attristantes et réjouissantes à la fois, que nous voyons. Et donc, aujourd'hui, bon, juste par un petit révision, d'abord, ce que nous avons vu la dernière semaine dans les versets 17, bon, les deux dernières semaines, nous avons parler des motivations pour accepter la discipline dans notre vie. Et le premier, c'était purement pour nous faire à méditer à Dieu et à sa parole. Verset 3, il avait dit, n'est-ce pas, vous avez oublié. Et quand nous sommes secoués par des épreuves, par des disciplines, nous disons, oh là là, bien sûr, ça m'arrive. J'avais entièrement oublié des choses. Nous sommes très, très, très oublieux. Donc, verset 5, c'était une instruction. Vous avez oublié une exhortation. Et donc, revenez à la parole et méditez la parole. Et nous avons vu aussi, c'était pour démontrer l'amour de Dieu. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. On a vu ça. Et puis, c'était aussi pour prouver pourquoi le Seigneur nous discipline si durement parfois, et si longuement parfois, et si injustement par rapport à notre standard de justice. Une chose, c'est qu'il veut prouver que nous sommes ceux qui appartiennent à Dieu. Nous sommes ses véritables fils et nous ne sommes pas des fils illégitimes. Savez-vous, il existe, et je mets entre guillemets, des fils illégitimes dans la foi chrétienne. Il existe plein de gens, de chrétiens soi-disant. Il y a plein de gens qui acceptent le nom chrétien là où il est très acceptable, mais qui, si jamais ils étaient dans un lieu où il n'est pas acceptable, il le rejettera. Et souvent, c'est les épreuves qui dévoilent ça. Un enfant illégitime d'un enfant légitime. Un enfant légitime, c'est qu'il apprend avec la discipline au fur et à mesure. Il ne faut pas résister à la discipline du Seigneur. Sinon, il agit comme quelqu'un qui n'est pas vraiment un enfant de Dieu. Donc, la discipline, attention, n'oubliez pas, discipline est traduire éducation, est traduire instruction, est traduire châtiment, est traduire discipline, est traduire correction, jamais, jamais, jamais punition. Attention, la discipline... Dieu ne discipline pas les inconvertis. Il les juge. Il les juge. Il ne juge pas ses enfants. Ses enfants ont déjà été jugés dans leur substitut, à la croix. Et maintenant, ils ne sont pas là pour être pénalisés, ils ne sont pas en prison. Au contraire, ils ne sont pas en train de payer la dette, ils sont en train de grandir et de devenir ce qu'ils sont par une instruction soigneusement préparée par un Père qui leur aime pour qu'ils ressemblent au Christ. Ça, c'est ce que nous avons vu en verset 4 jusqu'à 11, la fois avant la dernière fois. Donc, pour nous faire raison pour discipline, pour nous faire méditer à Dieu et à sa parole, pour nous faire montrer de nouveau et constamment l'amour de Dieu qui discipline ceux qui lui appartiennent et qui, pour que nous ressemblions Christ. Il y a trois différentes réactions qui nous ont été montrées aussi. On peut mépriser, verset 5, verset 17, 16 et 17, comme mépriser Ésaü. On peut dire, ça ne m'intéresse pas, oui je veux être chrétien, mais si ça inclut ça, non, je n'accepte pas. On peut faire ça, on peut perdre courage. On peut devenir très très découragé parce qu'on ne voit plus la main de Dieu dans ce qui est en train de se faire. Ou on peut être exercé, selon verset 11, exercé. On peut être traité, on peut recevoir cela comme le médicament nécessaire, comme le jus de vitamine nécessaire, comme le antibiotiques nécessaires pour qu'on reprenne la bonne santé, pour que notre vie revienne à la place qu'il a été créé pour être, et ça produit en lui plus tard pour ceux qui sont exercés la paix, la justice, verset 10, la sainteté. C'est le résultat. Et c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent en chapitre 12. Pour le reste du chapitre, à partir du verset 18, j'avais envie de faire en deux ou trois fois. Je ne vais pas le faire. Il y a beaucoup d'arbres dans une grande forêt. Et si on s'arrête à chaque arbre, ça va prendre beaucoup de temps. Et ce que j'aimerais que nous fassions avec le reste de ce passage, à partir du verset 18, c'est de dézoomer, de voir la forêt avec tous ses arbres, sans s'arrêter à tous les arbres. Cette fois, on serait là pendant beaucoup de semaines autrement. Et je crois que ça sera plus utile et plus instructeur et plus instructif et plus utilisable dans notre vie quotidienne. Si nous voyons comme un commentateur a suggéré de présenter, ce que nous voyons ici, vous allez dire, mais ça ne fait pas de sens. Quatre différentes collines. Excuse-moi, il doit avoir deux L et j'ai mis un L partout. Des collines de exhortation et impératives ou commandements qui sont donnés à travers le passage. Et puis on descend dans la vallée de éducation et instruction, information, correction, pour être remis sur la colline de exhortation et impératif. Qu'est-ce que Jésus avait dit en Matthieu chapitre 5 ? Vous mettez une lumière sur la colline. Non, une ville sur une colline, impossible de ne pas voir. Une lampe mis de haut, en haut, impossible de ne pas voir. Mais une lampe cachée est invisible. Une ville dans la vallée est moins visible. Et donc il a dit, laissez votre lumière briller devant les autres personnes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. On a chanté gloire, gloire, gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, gloire? Je vous avais donné avant une simple définition qui m'a marqué il y a des années. La gloire de quelque chose est l'excellence unique de quelque chose. L'excellence unique. Unique veut dire un seul. Il n'y a aucun but de notre glorification plus excellent que Dieu. Nous glorifions l'excellence unique. Et ça, c'est Dieu. Et quand Dieu est présenté, les gens ne sont pas intéressés. Oh, ils ne sont pas contre une divinité qui peut être visitée de temps à autre si on veut se sentir un peu sentimental, émotionnel. Mais pour quelqu'un devant qui je me prosterne et je dis, je ne fais rien sauf que tu veux. Ah non, je ne veux pas un Dieu comme ça. Je ne suis pas contre une divinité, je ne suis pas contre Dieu, mais un Dieu qui s'arrange avec moi. Non, Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Et il est en train de nous faire descendre dans la vallée de instruction, de correction. Laissez-moi le dire de cette manière. Connaissance correcte mène à pratique correcte. Ou peut-être mieux dire, on ne peut pas pratiquer correctement à moins que nous connaissons correctement. Connaître ses doctrines. Doctrine, c'est enseignement. Dieu, il est comment? Dieu, il veut quoi? Dieu, il agit comment dans ma vie? Dieu s'est dit, descendez-vous dans la parole de Dieu, je vais vous instruire. C'est pour cela que j'insiste avec des jeunes que vous cultivez une discipline journalement ou au moins une trentaine de minutes avant de partir en travail. Vous êtes instruisés à travers la parole de Dieu parce que vous allez sortir de votre appartement ou village ou maison et vous allez être de suite dans un terrain hostile, dans une mentalité qui n'a rien à faire avec la mentalité que tu viens d'absorber pendant 30 minutes avant de sortir. Et maintenant, la différence est bien vue parce que j'ai lavé mon cerveau avec la vérité cette fois. Plutôt que laisser mon smartphone, mon ordinateur, ou la pornographie ou d'autres choses laver mon cerveau. J'ai laissé la parole de Dieu me laver le cerveau et je l'ai fait avant hier, et je l'ai fait avant hier, je vais faire demain, je vais faire après-demain pour que je puisse absorber tout ce qui vient de ma vie avec une mentalité correcte, correcte, juste, droit. Une vie droite est absolument dépendante sur une connaissance droite et correcte. Donc la vallée, quatre fois dans ce passage, et la descente dans l'atelier de l'instruction et de correction et de châtiment et de discipline et de éducation pour sortir et vivre ce que nous venons d'apprendre. Bon, ce n'est pas si catégorique que ça. C'est mélangé entre les deux, sans doute. Peut-être ça sera mieux expliqué. Je ne sais pas si vous pouvez voir des lignes, mais ce que nous avons ici, dans le verset premier de tout le chapitre, nous avons dans la colline de l'exhortation un impératif, trois impératifs dans verset 1. Et en sortie de chapitre 11 de Hébreux, il n'y a aucun impératif, aucune exhortation, une quarantaine de versets, instruction, oh j'aurais dû dire motivation, vous êtes motivé, vous ne faites rien sans être motivé. C'est quoi qui motive ? Si vous êtes motivé par un esprit éclairé par la vérité de la parole de Dieu, vous allez avoir une lumière qui va briller plus sûre, plus certaine que non. Donc, la motivation de chapitre 11 nous font plonger dans les impératifs de premier verset de chapitre 12. Rejetons tout fardeau, rejetons tout péché, courons avec persévérance. Phew. Après chapitre 11, oh là là, moi je suis motivé, je peux aller jusqu'au bout, je suis bien motivé. Non, ça ne suffit pas juste de lire ça une fois. Il faut lire ça beaucoup de fois. Et il faut faire lire autre chose. Il faut toujours manger. Il faut toujours digérer. Il faut toujours manger correctement. Il faut toujours pas manger des Big Mac. Il faut toujours manger des choses qui ne sont pas trop... Parfois, eux-mêmes ne sont pas glorieux, mais quand même, ils sont solides comme nourriture. Il faut faire ça. Donc après, Hébreux 11... On est motivé. Donc, rejetons tout fardeau. Avant Hébreux 11, je ne peux pas rejeter tout fardeau. Oh, il y a des péchés quand même, ils ne sont pas trop trop mauvais, mais quand même, je ne peux pas les lâcher. Bon, après Hébreux 11, je peux lâcher tout. Et je peux courir, droit. Oui, peut-être on n'est pas réaliste. Oui, parce que ça arrive, vous avez peut-être compris après votre conversion, quand vous avez... La joie d'être pardonné de vos péchés et la sensation que vous pouvez voler jusqu'à le ciel sur les ailes de la foi sans retomber où vous étiez avant. Et à un moment donné, vous vous êtes trouvé où vous étiez avant et vous étiez tellement dévasté, abattu, entièrement abattu. Et voilà, vous avez découvert ça. Et donc, la nécessité d'entrer dans les vallées où 2 à 11 nous a donné beaucoup d'instructions par rapport et avertissements et warnings par rapport à comment rejeter le fardeau et comment rejeter le péché et comment courir avec droiture. Et le quatrième, c'était en verset 2, ayant les regards sur Jésus. Et puis nous sommes donnés tout de suite en verset 2, 5 positifs enseignements de cette personne à qui nous devons mettre nos yeux dessus. C'est une personne qui gardait ses yeux sur quelque chose dans l'avenir. C'est quelqu'un qui a souffert la croix, c'est quelqu'un qui a méprisé l'ignominie, c'est quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est quelqu'un qui, au début du verset, est le auteur et le consommateur de notre foi. Cette personne nous a invités dans le concours, promis d'aller avec nous, aller déjà en avance, créer notre foi, garantie que ça allait jusqu'au bout. Et ceux qui veulent que nous comprenions, et je crois que nous avons du mal, et peut-être ça prendra toute la vie chrétienne, de lutter contre cette idée, des impératifs, des choses que je dois faire pour que Dieu soit content. Des choses que je dois faire pour que Dieu me donne une bonne note. Des choses que je dois faire pour être adopté dans la famille de Dieu. Les choses que je dois faire pour que je puisse ne pas vivre dans la vallée de l'humiliation. Non, ce sont des choses que Dieu est en train de dire, j'ai fait toutes ces choses pour vous, je vous ai appelé dans mon école, non, je vous ai appelé dans ma famille, vous êtes maintenant mon fils, je ne vais pas vous traiter comme des voisins, je ne vais pas vous laisser sans discipline, comme je fais avec des voisins, je vais vous discipliner. Parce que vous êtes un joyau pour moi qui est tellement précieux. Et mais vous avez des choses, malheureusement, vous avez de la saleté, vous avez plein de choses qui ne vont pas. Mais je veux que ça change pour que vous soyez ce que vous aimeriez être. Et parce que je sais que vous m'aimez de plus en plus. Parce que je vois dans votre voie chrétienne que vous n'êtes pas content de rester médiocre. Pas content de rester tournant les pouces et de être un chrétien soi-disant. La Bible a des choses à dire, ah ben, des chrétiens soi-disant. Beaucoup vont dire dernièrement, mais Seigneur, écoutez, on était allé à l'église, on a même fait des quelques spectacles, on a même fait des miracles. Et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Et donc, le chrétien n'est pas... Il est en train de croire. Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, Dieu m'a envoyé, Dieu a précisé mon opération chirurgicale pour que je puisse être délivré de ce péché qui m'enracine, qui ne sorte pas, que j'accepte comme le croix que je dois porter. Non, Christ est mort pour le péché. Et la lutte que tu luttes est contre le péché. Jésus a lutté contre le péché et surtout les pécheurs. Pour vous, ce n'est pas trop souvent des pécheurs. C'est le pécheur qui s'appelle Robert, pour moi. Et c'est le pécheur qui porte votre prénom, pour vous. Mais c'est le péché. Et quand Dieu est en train de viser l'opération chirurgicale nécessaire pour traiter ce péché, ce n'est pas la punition. Il faut que nous faisons sortir ça de notre tête parce que c'est ça qui neutralise la motivation. On n'est pas motivé par une dette. On n'est pas motivé de payer une dette accumulée à travers les années. On a déjà mangé la dette. Maintenant, c'est la payer. Rien ne le motive sauf perdre mon compte bancaire ou autre chose. Non, nous devons être motivés par la parole de Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a garanti qu'il va aller avec moi jusqu'au bout. Donc, sur la colline... De verset 1, descendez dans l'instruction de 2 à 11. Alors, re-étudiez ces passages chez vous. Et puis, la semaine dernière, on est remonté sur verset 12 à 17. Plusieurs impératifs que je vais le lire avant de continuer sur la prochaine. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 12. Exhortation, exhortation impérative. Fortifiez donc vos mains. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forts. Vous êtes découragés, vous avez oublié l'exhortation, vous avez été instruit sur certaines choses avec une certaine précision, mais vous avez tout oublié. Alors, reprendre ça. Vous êtes mon fils. Vous ne pouvez pas être mon fils et ne pas souffrir les souffrances que je vous envoie. Acceptez ça avec joie. Pas simplement avec redout, Non, ça c'est neutralisant aussi. Ça fait inefficace aussi. Fortifiez vos mains languissantes. Fortifiez vos genoux affaiblis. Allez-y. Oui, vous êtes en train de courir. Oui, vous êtes fatigué. Mais écoutez, 80% de fatigue, c'est dans la tête. Allez-y, je sais que vous pouvez y aller jusqu'au bout. Oui, vos genoux sont un peu faibles, mais allez-y, ils peuvent quand même supporter plus que tu penses. Allez-y. Il n'est pas en train de vous déranger et de vous brutaliser. Dieu ne brutalise aucun de ses enfants. Son joug est facile. Son joug est doux. Son joug est paisible. C'est nous qui se sont brutalisés parce que nous rejetons. Je fais ça. Dieu ne brutalise pas. Suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne divise pas, ne se divise pas, mais plutôt se raffermisse. Impératif, 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 exhortation, recherchez. Recherchez la paix avec tous. Pourquoi? Parce que Christ recherche la paix. Dieu est dans votre corps pour rechercher la paix et pour donner la paix aux autres. Sans lequel personne ne verra le Seigneur. Impératif, veillez. Tous ces impératifs, il n'y en avait pas dans 2 Pierre 1:11. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Résister à la discipline de Dieu est grave pour l'Église, ainsi que pour vous-même, parce que ça s'infecte. Veillez. Et puis, vous voulez un exemple? 16 et 17. À ce qui n'est ni débauche, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Juif, premier-né, il aurait dû être de qui descendu Jésus-Christ. Mais c'était son frère Jacob. Bon, c'était dans le plan de Dieu. Oui, les bêtises sont dans le plan de Dieu. Les pires de péchés sont dans les plans de Dieu. Et puis verset 18, donc, exhortation, assez rapidement, non pas pour que Dieu fasse quelque chose pour vous, impératif, exhortation, mais parce que Dieu est à l'œuvre en vous. Notez cette phrase. Je voulais le mettre ici pour que vous le voyez. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est un fait biblique. Non pas pour que Dieu fasse quelque chose pour vous, mais parce que Dieu est à l'œuvre en vous pour votre sanctification à travers vos épreuves, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Si vous pensez que ça serait possible, c'est parce que vous ne comprenez rien sur la profondeur de la dépravation de votre propre cœur. Et ça, ce n'est pas théorique, ça c'est réaliste. Votre femme le connaît peut-être, mais vous non. Votre mari le connaît, mais vous non. D'autres personnes, non, eux ne comprennent pas non plus. Et vous devez le faire. Donc, nous avons les versets qui montrent les impératifs parce que c'est Dieu qui est déjà en train de faire ces choses. ce que je viens de dire, connaître ce qui est droit est à la base de faire ce qui est droit. Il faut connaître correctement comment Dieu agit dans nos adversités. Donc, Hébreux 12, 12 à 17, comment faire correctement? 4 à 11, connaître correctement. 12 à 17, faire correctement. Les exhortations ne sont pas des moyens de mener Dieu à agir, mais des moyens d'agir lorsque vous croyez que Dieu agit déjà pour vous. Je répète, les exhortations ne sont pas des moyens pour tenter Dieu à agir. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, Dieu, non. Ce n'est pas pour forcer Dieu, mais ce sont des moyens pour nous d'agir si nous croyons vraiment que Dieu agit déjà en nous. Et donc, 18 à 24, encore une base d'instruction et d'avertissement pour ne pas être comme Ésaü en versets 16 et 17. Et ce que je vais faire, c'est rapidement, comme j'ai fait la dernière fois, avec le temps que nous avons, traverser 18 à 29 sans chercher à vraiment regarder chaque phrase, parce qu'il y a des phrases absolument extraordinaires ici, que nous n'allons faire que deux ou trois petits commentaires, si même ça, pour aller jusqu'à la fin. Et si Dieu permet, peut-être une autre fois. J'ai mis le Louis II à gauche et j'ai mis le Semeur à droite. Je vais vous le lire dans le Semeur, assez lentement, avec pas beaucoup de commentaires. Et puis, on va avoir une conclusion à la fin. Nous sommes en train maintenant de redescendre dans la vallée de l'éducation, de motivation. Est-ce que ce que nous allons lire vont vous motiver de vouloir accepter avec joie les épreuves que Dieu a choisies avec une finesse exacte pour votre vie, afin que vous traversiez victorieusement cette épreuve? Résister veut dire recyclage. Vous connaissez ça, certains de vous. Recycler parce que vous n'étiez pas assez sérieux la dernière année. Et Dieu est très sérieux. Alors, instruction de motivation. Contrairement à vos ancêtres, vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites du désert d'une réalité que l'on pourrait toucher, c'est-à-dire un feu qui brûlait, qui peut être brûlé, des sombres nuées. Ils étaient visibles, des ténèbres visibles, un ouragan ressentible. Vous, non, vos ancêtres, oui, mais vous, chrétiens, vous avez connu Jésus-Christ, vous êtes dans une nouvelle alliance, vos parents, ils vivaient d'une différente mentalité que vous aviez appris. Et je vous rappelle, parce que il nous a déjà rappelé à plusieurs reprises, vous aviez pensé, oh, vous étiez libérés, vous étiez tellement joyeux dans votre nouvelle foi que vous avez suivi avec joie ça. Mais vos parents, non. Ils étaient à côté de la montagne de Sinaï. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix, telle que ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. C'est-à-dire, vous dites, mais Robert, ça ne me dit rien. Ok, et lisez Exode chapitre 9. À côté de la montagne de Sinaï, qui est juste hors de Jérusalem, les tonnerres qui éclataient, une voix compréhensible qu'ils ont entendue de Dieu lui-même. Ils ont été terrifiés jusqu'au point où ils ont demandé que cette voix s'arrête. Verset 20. En effet, s'ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné, quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Et verset 21, le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Ok. L'apôtre aux Hébreux veut qu'il se rappelle ce que je viens de vous lire à Pessah-Compostelle. Tous les auditeurs de cet apôtre, ils savaient très bien. Ils connaissaient leur Ancien Testament. Ils connaissaient Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils avaient au moins ça, même appris par cœur. Et ce que je viens de vous lire, ils connaissaient bien par cœur. Ils peuvent vous montrer exactement le passage dans la Bible où ça se trouvait. Rien de nouveau pour eux. C'est un rappel. C'est un rappel. Moïse était tellement terrifié. Ils avaient dit, Moïse, on ne peut pas supporter la voix de Dieu. Dès maintenant, on va rester ici. Vous allez faire une sorte de médiateur entre Dieu. Ça, c'est le problème. La sainteté sans médiateur est terrifiante. Je répète, la sainteté sans médiateur est terrifiante. Et ils ne pouvaient pas eux-mêmes supporter ça. Allez, et j'espère que Dieu vous parlerait et vous pouvez revenir et parler avec nous. Et oui, nous allons le faire, ne vous inquiétez pas. Dieu te parle, Dieu nous parle et on va le faire. Ce qu'il a promis. Non, dit-il. Mais maintenant, la comparaison. Pas ça, comme vos ancêtres, mais ça. Maintenant, non, vous, au contraire, vous vous êtes approché de la montagne de Sion, ce n'est pas Jérusalem, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges, en fait. Tout ça, c'est spirituel. Ça n'a rien à faire avec quelque chose qui est touchable. Il vient de dire, tout cela était touchable. Ah, attention, la montagne était touchable. Il ne fallait pas toucher, vous serez tué, mais il était touchable. Mais si vous l'avez touché, vous serez mis à mort instantanément, de suite. Cette montagne n'est pas touchable. Ce n'est pas un lieu géographique. Écoutez, il n'y a aucun centre chrétien géographique qui est le centre de tous les chrétiens. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pèlerinage à Jérusalem. Ça sera vraiment une insulte. Ce n'est pas ce Jérusalem. C'est le Jérusalem qui est céleste. C'est le royaume de Dieu qui est spirituel. Et vous, vous êtes approchés à cette montagne de Sion, cette cité de Dieu vivant de la Jérusalem céleste avec des milliers des anges, en fait, verset 23, et vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu. Vous faites partie de ça, chrétiens éprouvés et acceptant à cette épreuve parce que vous savez que Dieu l'a choisi et que Dieu est avec vous. Ça, c'est une des évidences très fortes que vous êtes un véritable enfant de Dieu parce que vous êtes approché de cette assemblée de fils premiers-nés. Il y a des autres que vous connaissez déjà ici par terre dont les noms sont inscrits dans les cieux comme le vôtre. Vous vous êtes approché de Dieu, le juge de tous les hommes. Oh, c'est mon juge qui me fait peur. Attention, c'est le juge de tous les hommes et des esprits, des justes, on peut dire des justifiés, qui sont parvenus à la perfection. Waouh! Comment un Dieu juste peut regarder à un injuste et déclarer juste cet injuste tout en restant lui-même juste. Vous avez suivi la logique? Comment un Dieu juste peut déclarer juste un injuste comme toi tout en restant juste lui-même? Parce que nous savons comment nous avons reçu la justice de Dieu, n'est-ce pas? Ne l'étiez pas comme le pharisien qui disait « Je te remercie Dieu parce que je vis d'une manière très juste, je suis très droit, je ne dérobe à personne, je fais ceci, je jeûne beaucoup de fois, je fais mon culte personnel tous les matins pendant 30 minutes, je fais toutes les choses pour que tu souris de l'approbation sur mes actes. Ah, je te remercie Seigneur. » Et le publicain qui regardait vers le bas, qui frappait sur sa poitrine. Je suis pas juste, j'ai aucune justice. Et miséricorde sur mon injustice. Jésus dit, cet homme est rentré chez lui, justifié. C'est le mot qu'il emploie. Il est rentré chez lui, justifié. Vous êtes approché à ce Dieu. Vos parents n'avaient pas de médiateur. Vous avez du médiateur, ce Dieu qui amène les siens à la perfection dans la sanctification que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous échapper si vous entrez comme beaucoup de monde qui vous dira plus tôt ou plus tard. Ce n'est pas la vie que je pensais être. Oui, je savais qu'il y avait des inconvénients. Aller une fois à l'église par semaine, c'est déjà une inconvénient. Mais bon, je ferai, ça y est. Mais non, plus tôt, plus tard, il dit, moi, je n'ai pas payé pour ça. Je n'ai pas, ça n'était pas dans mon plan. Je m'en vais, comme des millions à travers des années ont fait, pour démontrer qu'ils n'ont jamais été les enfants de Dieu. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur. Ah, le médiateur. D'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. J'ai déjà prêché ça dans ma prière tout à l'heure, n'est-ce pas? Un tout petit peu. Et ça doit presque suffire. Le premier meurtre, le premier sang physique versé par une autre personne, Abel. Je cherche à imaginer la scène quand, en pleine colère, il tue son frère, Cain, Abel. Et puis il cache son corps quelque part, et Dieu arrive et Caïn, où est ton frère? Mon frère? Moi, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui dois garder mon frère? Comme si Dieu va dire, D'accord, je vais demander à quelqu'un d'autre. Je m'en vais. C'était pas ça du tout. Comment on est tordu par le péché? Nous vivons comme ça. Nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est avant que nous soyons vraiment éclairés par les vallées de correction et instruction. Dieu doit corriger notre théologie de la souffrance avant qu'il puisse nous permettre de grandir dans notre foi. Parce que vous vous êtes approché à le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui ne parle pas comme le sang d'Abel. Dieu dit, Caïn, le sang de ton frère crie. Ah, là une voix. Crie depuis là où tu l'as pour vengeance. Mais le sang de Christ ne crie pas pour vengeance. Le sang de Christ, encore mieux, ça c'est de ne pas dire vraiment, vraiment, avec waouh, waouh, encore mieux, waouh. C'est incroyable. Et vous pensez à revenir à ça? C'est pas vrai. Prenez donc garde. Ah, on remonte maintenant pour l'impératif, pour l'exhortation. Oh, ne soyez pas comme Ésaü. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter. Ou gardez-vous de refuser d'entendre. De Louis II, c'est encore peut-être plus clair. Trois verbes. Garder, refuser, d'entendre. Il a dit de cette manière pour que ça soit vraiment visé, clair. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Parce que si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, c'est le second que je lis, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. On est maintenant dans la vallée de l'instruction, la vallée de éducation. Vous avez oublié, verset 3. Apparemment, vous avez oublié ça aussi, verset 25. Rappelez-vous de nouveau, rentrez dans l'école, recyclez à travers cette étude que vous risquez de laisser du côté, comme un AVC qui n'a pas de valeur. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Si 25 était une menace, 26 est une promesse. Et juste avant de parler de promesse, quel rôle? Quel est le rôle de menacer dans la Bible? Crainte. Parce que la crainte ne peut jamais se produire l'amour. Il n'y a pas d'amour dans la crainte. On ne peut pas théoriser quelqu'un au Seigneur. Pas possible. Le terreur ne peut pas fondre un cœur pour qu'il aime le terroriste. C'est Dieu le terroriste, semble-t-il. Non, mais la crainte quand même peut suffire pour ceux qui ayant regardé les immenses bénédictions de Dieu, ont pris un bol de soupe et dit, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Non, je préfère mes cornflakes, mes céréales. Je préfère ça. De secouer cette personne pour qu'il soit terrorisé. Il est en train de tomber sur la précipice. La semaine dernière, j'étais dans la voiture avec ma femme et elle a fait « Hopper !» Et puis, je suis allé vers ici parce qu'il y a une personne qui passait à ma gauche que je ne voyais pas. Je ne vais pas dire qu'on est vivante à cause de ça. Parce que je suis presque mort d'une crise cardiaque à cause de son cri. Mais enfin, ça c'était le bénéfice. Secouer, écouter. Parce que sinon, on n'en a pas besoin. Et puis, celui dont la voix a fait alors trembler la terre, fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel, qui parle de quelque chose dans l'avenir. Et puis, ces mots, il répète, une fois encore. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancienne de la création disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Il arriverait un jour où tout ce qui est ébranlable va disparaître par ce secousse. Et ce qui n'est pas inébranlable va rester et être purifié. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire dans nos épreuves. Mais nous avons besoin pas simplement d'accepter comme tout le monde. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, c'est absolument vrai. Mais chapitre 12 de Hébreux va beaucoup plus loin que cela. Dieu ne vient pas simplement pour régler les choses désagréables. Il envoie des choses désagréables. Ce chapitre nous enseigne. Et que nous les acceptions comme son don. C'est le don de Dieu. Pouvez-vous regarder à travers les larmes de peine, de douleur, et dire « Merci Dieu pour ce don !» Parce que j'en ai besoin pour ma sainteté, pour ma joie, pour être libéré de moi-même, mon plus grand maître d'esclavage. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Et puis verset 9, parce que notre Dieu est un feu qui consomme. Notre Dieu est un feu qui consomme. Est-ce que vous êtes soulagé ou terrorisé par verset 29? Si vous êtes comme Ésaü, vous prenez à la légère la vie chrétienne, vous êtes quelqu'un. Le terreur, c'est pour quelqu'un qui a son pied dans ses cornflakes et sa soupe et son smartphone et son ordinateur et mille choses qui regardent là, mais J'ai pris une prière il y a des années. J'ai passé à travers des autres baptêmes. T'inquiète pas, ça y est. Et il ne s'intéresse que ces cornflakes. Il devrait être terrorisé par un feu qui consomme les cornflakes. Parce que ce feu va consumer tout ce qui est consumable. Mais il va purifier tout ce qui n'est pas consumable. Le chrétien est soulagé. Oh Seigneur, j'attends ce jour. Parce que je sais, oui, tu m'as fait des opérations, plusieurs opérations, très profondément, il faisait beaucoup de douleur. Mais à chaque fois, les péchés incrustés au fond du moi sont sortis, et tu m'as libéré de moi. Mais je sais qu'il en reste. Et j'attends ce merveilleux expérience où je serai une fois pour toutes secoué d'une manière que tout ce qui est ébranlable sera disparu par le feu qui purifie ce qui reste. Oh, c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Il est sérieux. La foi chrétienne n'est pas juste un club qui ajoute un peu de raison d'être dans notre vie quotidienne pour que nous puissions faire mieux la fête que nous faisons tous les jours. Non, c'est une autre sorte de fête. La foi chrétienne introduit une joie sérieuse, très sérieuse, mais une joie qui est beaucoup plus profonde que la légèreté de joie que beaucoup manifestent dans le monde autour de nous et que nous cherchons, oh Dieu nous pardonne, à imiter pour qu'il nous aime. Plein d'espoir et de promesses pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, avant de prier, à chacun chercher son cœur. Dieu est un feu qui consomme. Hébreux n'est pas un livre que beaucoup de gens aiment, mais une fois que les vérités d'Hébreu sont comprises, saisies et appliquées, on ne peut pas résister à la lecture d'Hébreu. Elle est trop magnifique. Elle est trop merveilleuse. Elle est trop bonne, ce livre d'Hébreu.